Voilà, c'est ce verset qui va introduire notre première étude sur la doctrine de Dieu, donc en Apocalypse chapitre 4, verset 11. Nous lisons « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » On va commencer par répondre à une première question existentielle, celle qui tourmente les hommes depuis plusieurs siècles. Dieu existe-t-il ? Est-ce que Dieu existe ? Ah, c'est une première question. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ? Quelqu'un qui se posait la question, est-ce que Dieu existe ? Entre nous, on ne se la pose plus, mais avant de nous convertir, on se la posait quand même. On se disait, est-ce que Dieu existe ? Alors certains disent, j'ai toujours cru, oui, mais en quelque chose de pas clair du tout, quoi. Est-ce que Dieu existe ? Est-ce que c'est une puissance dans l'univers ? Est-ce que c'est une personne ? Qui est-il ? Alors vous savez, dans l'histoire ancienne, les gens ne se posaient pas trop cette question-là. Les hommes ne se posaient pas cette question. Des dieux, ils en avaient plein. Ce n'était pas un problème de se poser la question, est-ce que Dieu existe ? Des dieux, il y avait des divinités partout. Ce n'était pas un souci majeur, mais les gens n'avaient pas cette recherche, on va dire. Rappelez-vous, si vous connaissez votre Bible, lorsque Paul va à Athènes, il voit des divinités partout. Et donc, il va commencer à discuter avec les juifs qui sont là, puis avec les philosophes qui vont l'inviter à l'aéropage pour prendre la parole. Et puis, lui va commencer à partager en disant « Je vois, chers Athéniens, que sur le sujet religieux, vous êtes à fond, hein, vous êtes vraiment en pleine recherche, vous avez des dieux partout, même, j'ai même vu un autel à un dieu inconnu. » Et c'est justement celui-ci, un dieu inconnu, on ne sait jamais s'il y en avait un qu'on avait oublié dans la grande famille de toutes les divinités. Au cas où, on avait quand même pensé à lui. Donc, Paul dit « Voilà, c'est ce dieu-là que je viens vous annoncer. » Ça, c'était dans l'histoire ancienne. Toutes les civilisations retrouvent un aspect religieux des divinités. Mais dans l'histoire récente, ça a beaucoup changé. Là, le fait religieux, il a bien disparu quand même. Les gens se posent la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a un Dieu ? Ils se sont tellement éloignés de lui. Allez dans le rayon livre de la Sorbonne à côté à la FNAC, des sujets, des livres sur Dieu, vous allez en voir beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, énormément. Les plus grands penseurs, les hommes les plus intelligents ont essayé de réfléchir à cette question-là. Et quand j'étais en train d'écrire ces lignes hier après-midi, Ruth était à la FNAC, puis elle revient, elle me dit « Oh, j'ai vu un livre et tout, ça peut être, qu'est-ce que t'en penses ?» C'est le prix Nobel de mathématiques qu'il a écrit, ça s'appelle « De Jésus à Jésus en passant par Darwin ». Ah, j'ai dit « Écoute, ça tombe bien ». Alors j'étais sur Google, alors, voilà ce que dit le livre. Comme quoi, hein, on peut... Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Si vous voulez un bon livre, allez à la maison de la Bible. Hein. N'allez pas à la FNAC. Hein. Alors, c'est le prix Nobel de mathématiques. Professeur éminent de l'école Rockefeller de New York, professeur émérite à Cambridge, enfin tout le CV est parfait. Il dit « Le sage dont notre monde a besoin a bel et bien existé. C'était il y a 2000 ans. Il se nomme Jésus. Son message reste une actualité brûlante. » Je valide. Nous validons. Ce message annonce une nouvelle forme de rédemption qui correspond exactement à ce que notre vision darwinienne de la condition humaine recommande. Ah. Si nous voulons échapper aux conséquences fatales de la tâche originelle imprimée dans nos gènes par la sélection naturelle. Ça coince un peu, là. Clercs et laïcs, croyants et libres penseurs de toute obédience doivent chercher ensemble, au-delà de ce qui les divise avec le concours du plus grand nombre possible de philosophes, de moralistes, scientifiques et d'autres penseurs unis par l'honnêteté intellectuelle, un énoncé du message de Jésus adapté aux conditions actuelles. En gros, il faut adapter le message de Jésus parce que sinon... C'est notre seul espoir si nous voulons tirer parti d'une manière humaine et rationnelle des moyens préservés par la sélection naturelle qui paradoxalement pourra nous permettre de contrecarrer les conséquences, blablabla. Bon. On peut être super intelligent, on peut être prix Nobel de mathématiques, et on peut quand même avoir besoin de lire sa Bible pour apprendre certaines choses. Si vous voulez un bon livre, allez à la maison de la Bible. Voilà, je leur fais un peu de publicité. Alors, comment la Bible répond à cette question ? Dieu existe-t-il ? Est-ce que la Bible dit « Dieu existe » ? Ben, la Bible, elle répond de la plus éclatante des façons, dès les premiers mots de la première page de la première ligne. Regardez, Genèse chapitre 1, verset 1. La question est réglée dès le départ. Comme ça, après... On peut passer au reste. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà.
C'est tout. C'est répondu.
Dieu existe, oui. Au commencement, c'est même lui qui a créé les cieux et la terre. Voilà. Page suivante, on tourne une page et puis on va passer à l'essentiel maintenant. Voilà, la question est répondue. J'ai fini mon message, ça durait 3 minutes. Je vais prolonger un peu. Pourquoi alors on se pose tant de questions? Pourquoi il y a tant de débats? Pourquoi il y a tant d'égarements? Pourquoi il y a tant d'émissions, de programmes, de livres, de revues, d'émissions, etc. Ben, tout simplement parce que les gens qui cherchent, qui se posent des questions, ils ne cherchent pas au bon endroit la réponse. Si vous cherchez la traduction en mot en anglais, est-ce que vous allez chercher dans un dictionnaire en allemand? Ce ne serait pas logique, vous n'allez jamais trouver la réponse. Si vous cherchez Dieu, il faut le chercher au bon endroit. C'est dans la Bible, Dieu est dans la Bible, vous voulez savoir, vous voulez connaître Dieu, sa personne, c'est dans la Bible qu'il faut aller. Si vous commencez à aller chercher dans les livres de personnes non converties, vous allez dans la philosophie, vous allez dans les fausses religions, vous allez dans tous ces programmes sur Internet, etc., vous allez vite vous retrouver dans une... C'est même plus une impasse, c'est un labyrinthe. Vous avez déjà été dans un labyrinthe quand on était petit? Je me rappelle, on allait dans des petits châteaux, des fois dans des gros châteaux plutôt. Et il y avait des petits labyrinthes, là, vous savez, avec des haies et tout. On se perdait, on était tout petit, on ne trouvait plus la sortie et tout. Bah, si vous cherchez Dieu en dehors de la Bible, vous allez vous retrouver dans cette situation-là. Vous allez avoir du mal à sortir, hein, apparemment. Hein. Vous allez vous perdre. On peut être prix Nobel de mathématiques, on peut être professeur émérite et puis en fait se perdre. Regardez ce qui est arrivé au roi Nabuchodonosor. Roi puissant, hein? Puissance, il en était, hein, Babylone. Regardez dans Daniel, chapitre 4, versets 31 à 33. Un homme très puissant, qui se pensait très sage aussi, qui à un moment se dit, regarde depuis sa terrasse et se dit que cette ville, c'est quand même lui qui l'a fondée. Il va se retrouver sous le châtiment pour cela. Daniel 4, versets 31 à 33. Seigneur conduit toutes choses. Au moment indiqué, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel. Alors, voilà, donc il va être sous le coup du châtiment, donc c'était un homme très puissant, et Dieu va le punir, il va vraiment retomber à l'état d'une bête sauvage, hein, il va devenir complètement fou, il va vivre avec les animaux sauvages, ses cheveux vont pousser, ses ongles, tout ça, jusqu'au moment où, ah, le Seigneur va le réveiller en quelque sorte, et Nabuchodonosor va dire, au moment indiqué, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tout autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse les résister et qui lui dise « Que fais-tu ?» À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume a été rendue, etc. À ce moment-là, la raison m'est revenue. C'est-à-dire que tant qu'il était loin de Dieu, il était sans raison, en fait. Et pardon, mais tous ces grands écrivains, et je nomme pas forcément cette personne en particulier, mais comme dirait Léo, je ne fais pas de jugement de valeur, mais on peut quand même, malgré tout, avoir un œil critique sur ses écrits. Évidemment, on ne cherche pas le Seigneur, on détourne la vérité. Et on peut se dire qu'ils sont sans raison, finalement. C'est plutôt de la folie, ce qu'ils sont en train d'écrire. On peut être très intelligent et sage aux yeux du monde. Aux yeux de Dieu, c'est des hommes sans raison. C'est de la folie. La vérité, mes amis, se trouve uniquement dans la Bible. Voilà. Uniquement dans la parole de Dieu. Uniquement. Elle nous présente justement Dieu, sa personne, son œuvre, ses caractéristiques, sa personnalité. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure des dimanches. Tout est là, mes amis. Est-ce que vous lisez votre Bible? Oui. Amen, gloire à Dieu. Et je crois, on peut être honnête, je ne sais pas si on la lit assez quand même, honnêtement. Est-ce qu'on la lit assez, notre Bible? Alors chacun fera son autocritique. Qui a un iPhone? Il y a quelques-uns. Vous avez peut-être eu la mise à jour d'Apple il y a quelques jours, elle est très bien. C'est très pratique, en fait, ils ont mis une nouvelle fonctionnalité pour limiter votre temps d'écran. C'est très utile, notamment pour les enfants. Vous pouvez, à partir de votre téléphone, dire voilà, vous limitez le temps d'accès aux jeux et aux réseaux sociaux. À partir de votre téléphone, vous pouvez aussi contrôler les téléphones de vos enfants, faites un groupe familial, et vous contrôlez, vous leur autorisez 30 minutes, une heure et demie par jour en fonction. Voilà. C'est très pratique pour les enfants, et peut-être aussi pour nous si on était un peu accro. Je pense que les chrétiens devraient faire la même chose, mais à l'envers, en fait. On ne devrait pas nous restreindre à une heure, une demi-heure ou autre. On devrait s'obliger, on devrait avoir une fonction sur le téléphone qui nous oblige à lire la parole de Dieu ou à prier 30 minutes, une heure et demie, voilà. On devrait s'imposer ça dans sa vie chrétienne. Ce serait une nouvelle fonctionnalité, on peut leur proposer, peut-être qu'ils trouveront l'idée intéressante, m'étonnerait, mais bon. S'obliger à un temps avec le Seigneur, imposer, figure imposée, vous n'avez pas le choix, il faut le faire tous les jours. Vous n'avez pas le temps, tant pis, vous le faites quand même, 30 minutes, vous dormirez moins. Dans cette fonctionnalité, on peut voir également le nombre de le temps qu'on passe sur le téléphone par jour. Regardez-le, vous allez être surpris. Je loue 50 fois par jour mon téléphone. Ouh. Ah, quand même. Regardez, vous ne serez pas loin, à mon avis. Parce qu'il y a un SMS, il y a un email, il y a un truc et on répond. 50 fois par jour. Donc je me dis qu'on a peut-être quand même un petit peu plus de temps à donner au Seigneur, quand même. Voilà. L'objectif, c'est de donner plus de temps au Seigneur que le temps qu'on passe sur le téléphone. Ça peut être une première règle. Alors, est-ce que Dieu existe ? La Bible dit clairement, Dieu existe. Donc, on sait déjà que Dieu existe. On peut passer à la suite. Alors, qui est ce Dieu à présent ? On revient à notre premier verset dans Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Ce Dieu, c'est un Dieu souverain. C'est un Dieu souverain. Apocalypse 4, verset 11. Ça commence par de la louange. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint. On aura l'occasion de venir ça aussi sur ce point-là un prochain dimanche, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et donc c'est par ta volonté qu'elles existent. Si l'univers existe, a été créé, c'est par la volonté de Dieu. Et s'il existe encore, c'est par sa volonté. Donc on vit dans une création qui n'est pas le fruit du hasard, pas le fruit d'un hasard incontrôlé et incontrôlable. Pas un truc qui est apparu comme ça et puis on ne sait pas trop où il va, quoi. Non, non, il y a un plan divin derrière tout ça. Vous savez, ce grand horloger dont parlait le philosophe ? Voilà, il y a quelqu'un derrière ce plan-là. Dieu a créé ce monde, il ne l'a pas laissé livrer à lui-même. Il le contrôle. C'est par sa volonté qu'elles existent. Dieu est souverain, Dieu a la main sur l'univers. Dieu aurait pu créer l'univers et puis le laisser en gestion aux êtres humains. Imaginez ce que ça aurait donné. Dieu aurait créé en disant... Bon, maintenant je leur laisse tout et je me repose, voici le septième jour, je ne vais pas plus loin, et c'est fini. Je leur laisse la gestion, je n'interviens plus dans leurs affaires. Allez, je pars et je reviens à la fin des temps peut-être. Mon avis serait revenu assez vite, hein, parce que la fin des temps, je crois que ça sera arrivé tout de suite. Imaginez l'autogestion, ce que ça aurait pu donner. Au contraire, Dieu a bien la main et il règne, mes amis. Regardez dans le psaume 47, versets 7 à 10. Que nous dit la parole. Ce qui va nous rassurer, hein, on va se dire Dieu est là, Dieu est là. Psaume 47, versets 7 à 10. Chantez en l'honneur de l'Éternel, chantez en l'honneur de notre roi, chantez, car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Qu'il est roi de toute la terre, verset 8. Il est le roi de toute la terre. C'est le roi des rois. C'est lui qui domine sur tout. Et verset 9, il règne sur les nations. Ça, c'est important parce que ça dit que Dieu est roi, mais que Dieu règne. Il y a des rois qui ne règnent pas. En Espagne, le roi ne règne pas. En Belgique, le roi ne règne pas. En Angleterre, un peu plus. Mais il y a un gouvernement, il y a des ministres, il y a des personnes qui s'occupent des affaires du royaume, enfin, de la cité, etc. Mais le roi est plus, dans certains pays, un titre un peu honorifique. Voilà. C'est le roi. Il représente quelque chose, mais il n'a aucune autorité, il n'intervient en rien du tout. Mais là, Dieu est roi, mais Dieu règne. Donc il est souverain. Les puissants de la terre lui appartiennent. Ça veut dire qu'il est en plus au-dessus de toutes les autorités. Donc Dieu est roi, il règne et il est au-dessus des autres. Il est le souverain parfait. C'est ce que Nabuchodonosor a reconnu. Hein. Il était roi de Babylone et à un moment, il a reconnu, il a dit « Tu es au-dessus de tout, tu règnes sur tout et les êtres humains sont rien finalement. » Et il s'inclut. Est-ce qu'il a bien reconnu qu'il n'était pas plus qu'une bête sauvage il y avait encore quelques heures, quoi. Donc Nabuchodonosor lui aussi l'a reconnu. Cette création, c'est sa création dans laquelle on vit. Donc le Seigneur en prend soin, il la maintient. Et heureusement qu'il en a gardé le contrôle. Hein. Alors on peut se dire, c'est vrai, Seigneur, t'en as le contrôle, mais des choses, des fois, qu'on voit, il y a tellement de conflits, tout ça. Mais c'est un règne à venir, mes amis, c'est un règne en construction. Seigneur aurait pu le faire tout de suite, mais il nous a laissé aussi une certaine responsabilité dans l'administration de cette terre-là. Il nous a confié quand même des rôles, des responsabilités. Et puis il attend de nous qu'on agisse bien. Parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, il y aura un jugement. Il sera rendu à chacun selon ses œuvres. Qu'aurons-nous fait de notre temps, de notre passage sur terre? Qu'est-ce qu'on aura fait de tout ça? Le royaume étant de venir, d'ailleurs Jésus l'a prié, elle a dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Sous-entendu, ton règne n'est pas encore là, donc c'est une étape progressive. Mais Dieu est derrière toute l'histoire et il agit sur toute chose. On voit qu'il est roi, qu'il règne et qu'il est au-dessus de toutes les autorités. Et on ne doit pas demander des comptes à Dieu. Il fait ce qu'il veut et il fait ce qu'il décide. C'est lui qui est souverain. Regardez avec moi Ésaïe 46:10. On pourrait être plus royaliste que le roi, vous savez, comme on dit en France, en se disant « Dieu, si tu es roi, tu pourrais, etc. » Mais Dieu, il a son plan qu'on ne peut pas comprendre. C'est dans Ésaïe 46, verset 10. Le Seigneur parle, il dit « Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps avant ce qui n'est pas encore mis en œuvre. » Donc Dieu sait déjà toute chose. Il le révèle en plus. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Voilà. Le Seigneur met en œuvre tout ce qu'il désire. C'est-à-dire qu'il sait déjà à l'avance tout ce qui va se passer. Il l'annonce. Il y a des prophéties déjà réalisées dans la Bible. Il y en a d'autres qui sont annoncées et pas encore en place. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Et c'est le règne qui va venir, justement, que l'Apocalypse nous présente. Mais il dit, mon projet se réalisera. Quoi que fassent les hommes, quelles que soient les situations, dans tous les pays, etc., quel que soit le désordre apparent, je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Dieu aura le dernier mot, les amis. Ça devrait nous rassurer, non? Finalement, ça devrait nous rassurer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une coquille de noix abandonnée en plein océan. Vous imaginez le truc, si on était dans une coquille de noix abandonnée en plein océan avec le... Dieu à la barre. Dieu a choisi le cap. Il va nous conduire à bon port, mais il y a encore la tempête. Voilà. Mais il faut tenir bon, il faut avoir l'espérance. Il y a un cantique qui dit « Le vent se déchaîne, nos cœurs sautent en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port, non ?» Alors soyons en paix. Dieu existe, Dieu a créé le monde, il est sous son autorité, il règne, il le dirige, il est souverain. Mais alors pour qu'on soit complètement rassuré, il faut quand même un point essentiel, c'est est-ce que Dieu est amour? Parce que s'il dirige toute chose, mais si c'est un Dieu malveillant, ça va nous poser un souci, on va avoir un vrai problème. Est-ce que Dieu est amour? Il aurait pu être un tortionnaire. Il aurait pu se faire des créatures pour son bon plaisir. Vous savez, dans les mythologies, on voit ça, hein, des dieux qui créent des créatures pour un petit peu les torturer, pour un peu se faire plaisir quand ils s'énervent. Ah, vous connaissez l'épopée de Gilgamesh? Ça vous parle? Le plus ancien récit, voilà, trouvé dans les ruines de Babylone, etc. Cette histoire raconte avec force de détail le déluge. On serait étonné quand même de voir que dans la mémoire des civilisations et des peuples, on retrouve le déluge avec vraiment des détails précis. La chute, le serpent et tout sont là. Et on voit donc des divinités, voilà, qui se font plaisir, ils se font des créatures et quand ils sont énervés, ils vont vers les hommes et ils cassent tout. Parce que ça leur fait du bien. Voilà, ça c'est le grand Dieu, le tout-puissant, le créateur de toutes choses. Oh, ça avait été comme ça. Certains pensent que Dieu est comme ça, hein. Ils disent que Dieu est méchant parce qu'il y a des guerres, des violences, etc. Est-ce que c'est Dieu qui fait les guerres? C'est l'homme, hein. C'est à nous de faire notre autocritique. C'est un Dieu d'amour que nous avons, c'est ce que nous dit la Bible. Regardez, il nous connaît chacun individuellement. Dieu n'est pas un Dieu de la globalité, on va dire. C'est un Dieu individuel aussi. Psaume 139, versets 13 à 16. Il a formé chaque créature et c'est dans un plan d'amour. Psaume 139, versets 13 à 16. Et ça démontre justement l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est David qui parle, il dit « C'est toi qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret. » Tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Ça commence par « c'est toi qui m'as formé », ça se termine par « sur ton lit, il était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe ». Dieu connaît chacun d'entre nous et chaque journée que l'on va passer, il en connaît tous les détails et tout est dans un livre, mes amis, au ciel. Et il y a tous les détails de votre vie, jour après jour. Dieu a déjà consigné par écrit tout ce que vous allez faire. Il sait à l'avance, de toute façon. Il sait à l'avance tout ce qui va nous arriver. Dieu nous a créés un par un, individuellement. Ce n'est pas une création globale, hop là. C'est vraiment, il y a de l'attention du Seigneur dans chacun d'entre nous. Dieu vous aime, mes amis, individuellement aussi. Il a de l'amour pour vous. Et il a même déjà consigné par écrit tout ce que vous vivrez. C'est beau de penser qu'au ciel, il y a un livre avec nos noms dedans. Et un jour, on le lira certainement. Le Seigneur nous le montrera. Il nous montrera ce livre qui doit être très grand avec toutes les... Ou alors ils sont individuels, il y a peut-être une grande bibliothèque avec des livres individuels. Enfin, on peut s'imaginer plein de choses, en tout cas, ça sera très beau. Alors Dieu nous aime, Dieu nous a conçus dans un plan d'amour. Et Dieu a un très beau dessein pour chacun d'entre nous. Certains peuvent se dire, moi, je suis accablé dans les problèmes. Dès ma naissance, ça a très mal commencé, ça continue mal, je ne sais pas. Ben, regardez ce que dit Jérémie 29, verset 11. Alors, c'est Jérémie qui écrit, mais c'est Dieu qui parle. Le prophète Jérémie nous dit, Jérémie 29, verset 11, « En effet, moi, c'est l'Éternel qui parle, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Le Seigneur a des projets pour nous de paix, afin de nous donner un avenir et une espérance. C'est beau, hein ? Le Seigneur a de l'attention pour chacun d'entre nous, il a un très très beau projet pour chacun d'entre nous. Si vous avez beaucoup de difficultés, si vous avez des épreuves, des moments difficiles, ça a mal commencé pour vous, si vous donnez votre cœur au Seigneur, ça va bien finir. Voilà. Le Seigneur a un plan merveilleux. C'est des vérités qui nous montrent vraiment l'attention et l'amour qu'a le Seigneur pour nous. Dieu est amour, voilà. Il aurait pu dire, créature, je l'ai créé pour le plaisir, pour administrer les choses, et puis à la fin, je reviendrai au dernier jour et je réglerai tout ça. Non, non, non. Il a de l'intention dans la création de chaque personne, et le plan qu'il a pour chacun d'entre elles. Mais il y a encore une plus belle preuve de son amour. Et c'est en Jésus-Christ qu'on la trouve. Voilà, ça c'est la preuve parfaite de son amour. Regardez avec moi dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 9. Il y a beaucoup de versets dessus, celui-ci en fait partie, il y en aurait d'autres. 1 Jean, chapitre 4, verset 9. On parle de l'amour de Dieu, c'est très bien, mais la Bible l'affirme, dit « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. » Voici une preuve. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Voilà. Plus loin dans la lettre aux Hébreux, il est dit « Jésus-Christ est le reflet de la gloire et l'expression de la personne de Dieu. » En Christ, on voit Jésus. Personne n'a jamais vu le Père, mais en Christ, on a tout le détail de sa personnalité. En Christ, on voit l'amour du Père. On voit comment Jésus avait compassion pour les malades, les blessés, les infirmes, les veuves, ceux qui étaient dans le deuil, les personnes qui souffraient. Il avait aussi compassion des pécheurs, pas seulement de ceux qui souffrent, mais il savait très bien, Dieu, que notre péché nous fait souffrir et qu'il nous colle à la peau. Hein. Ça nous colle à la peau, le péché. Hein. Paul dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je voudrais pas. » Et tous les jours, on lutte contre cela. Hein. On était condamnés parce qu'on avait tous péché. Tous. Mais regardez ce que dit Romains 5, verset 8. Ça complète justement cette idée que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Alors comment ? Comment on peut avoir la vie à travers le Fils de Dieu ? Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le premier point, c'était Dieu envoie son Fils. Et le deuxième point, c'est le Fils meurt pour nous. Voilà. Christ va aller mourir sur la croix, mes amis. Vous êtes peut-être restés à l'épisode de Jésus parmi les hommes, mais il y a Jésus mort, meurt pour les hommes. C'est celui qu'on trouve dans des églises où Christ est toujours ensanglanté sur une croix, en agonie, etc. Mais Christ est mort pour nous, effectivement, c'est une image forte qui nous rappelle que le Seigneur est mort sur la croix à notre place. La logique, la justice aurait été que je sois sur la croix, que vous soyez sur la croix, mes amis. Pardon, je ne connais pas votre vie, mais je sais que vous avez péché. De toute façon, c'est la Bible le dit et vous le savez très bien, on a tous péché. Et donc la punition, quand on fait une bêtise, ce qui est juste, c'est si un de vos enfants fait une bêtise, vous allez punir celui qui a fait la bêtise, pas celui d'à côté. C'est juste. Mais là, Dieu a voulu pour une fois quelque chose qui n'est pas injuste, mais il est souverain. Et il fait ce qu'il veut. Donc il a dit plutôt, c'est plutôt une preuve d'amour, en disant plutôt que ce soit elle, lui, qui meurt pour ses fautes, c'est mon fils qui va mourir à sa place, je vais le remplacer. Alors ça, c'est la preuve la plus magnifique, éclatante de son amour. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors si nous acceptons ce sacrifice, si on croit au Fils de Dieu, on est sauvé. Alors pour être simple, si on est sauvé de l'enfer, on gagne le paradis, hein, si on veut simplifier, c'est ça. Hein. On gagne la vie éternelle avec Dieu. C'est le plan divin, c'est ce que Dieu veut pour l'homme. Mais il ne nous l'impose pas. C'est là aussi où Dieu est souverain. Dieu nous laisse faire les choses. Dès le début, on a vu, dès le début, Dieu crée les cieux et la terre. Et dès le début, il place l'homme devant des choix. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a mis au milieu du jardin ? Un arbre. Et il leur a dit, tu peux tout manger sauf ça. Il lui laisse le choix. Il dit, tu peux en manger, mais si tu en manges, tu mourras. Donc il lui laisse le choix de ne pas en manger. Dieu aurait pu dire, je ne place pas l'arbre au milieu du jardin. Et le problème était réglé. Dieu aurait pu dire, je ne laisse pas le mal s'approcher de l'homme. La tentation, le problème était réglé. L'arbre aurait pu être comestible, et il n'y aurait pas eu de problème. D'accord. Mais le plan de Dieu, sa volonté, et Dieu est souverain, c'est de dire, tu as le choix. Il y a un arbre, tu peux faire plein de choses, mais il y a une chose que tu ne peux pas faire. Il faut quand même être vicieux, et nous le sommes, pour aller faire la seule chose qui est interdite. Voilà. Mais on a quand même trouvé le moyen de le faire. Pour dire à quel point on est pécheur. Hein. Tu te rappelais l'autre jour, c'était sur le site d'Emmanuel Bodzi. Donc c'est un pasteur de Paris, il avait fait son site internet, son blog, et puis il avait mis un gros sens interdit au début, c'était marqué « Ne cliquez pas ici !» Je l'ai cliqué évidemment, parce que voilà, mais bon, pour voir ce qu'il y avait derrière. Et derrière c'était « Vous avez bravé les interdits, vous êtes un pécheur, donc voici ce que dit la Bible. » Et c'est exactement ça quoi. Vous avez un gros truc, il ne faut pas faire, on vous a dit « Ne roulez pas à plus de 80 km/h. » Oh là là, 80, on n'y arrivera jamais. Comment on faisait quand on était à cheval? On ne dépassait pas les 80. Quand on est à bicyclette, on dépassait les 80 sur la route départementale? Jamais. Donc ça ne doit pas nous poser de problème. Mais on aime bien braver les interdits. Et Dieu simplement, voilà, il est souverain, donc il nous place devant nos choix. Il dit, voilà, tu as le choix. Regardez avec moi dans Deutéronome, versets 30 et 19. Et justement, par rapport à la vie éternelle, à l'éternité, paradis ou enfer, il nous laisse le choix. Deutéronome 30, verset 19. Voilà, Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Choisis la vie. Il y a deux chemins devant toi. La vie, la mort. La bénédiction, la malédiction. Choisis. Seigneur ne dit pas, voici un chemin, emprunte-le, c'est le chemin vers la vie éternelle, ou voici un chemin, emprunte-le, c'est le chemin de la mort. Il laisse le choix à l'homme, il dit, voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin de vivre. Dieu n'est pas un tortionnaire, Dieu n'est pas non plus un dictateur. Voilà ce qu'on apprend sur lui. Il laisse l'homme devant ses choix. Alors, on doit se positionner aussi, nous autres. Hein. On a deux chemins devant nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va suivre le chemin le plus facile ? Alors, il y en a un qui est facile. Il est large, ce que nous dit la Bible. Il est très large, ce chemin. Donc déjà, il n'y a pas besoin de jouer des coudes. Il y a de la place pour tout le monde. Si l'autoroute n'a pas quatre voies, il y en a plus, visiblement. C'est un chemin très large. Il y a beaucoup de place. Il descend. Alors, il est super facile parce qu'il n'y a pas de difficulté. Et en plus, il est en pente. Alors, c'est super facile. On a du rythme, etc. Il n'y a pas d'épreuve particulière. Il est droit, ça ne tourne pas. Donc c'est droit, c'est large et c'est en pente. Imaginez un chemin de montagne qui serait comme ça. Vous êtes dans la montagne, vous avez
un chemin, vous êtes au pied là, et puis vous avez soit le choix. Alors, soit vous descendez dans la vallée, c'est large, c'est droit, il n'y a pas d'obstacle, c'est presque goudronné et tout, ça descend tranquillement. Ou alors il y a l'autre chemin, celui qui monte. Alors là, il est plus compliqué celui-là. Ce qui monte, donc déjà, c'est plus dur. Ça tourne. On ne voit pas où on va au bout, donc ça, on ne sait pas. Il y a des pièges, il y a des cailloux, il y a des trucs, c'est sinueux, c'est étroit, on n'est pas. C'est pas évident, quoi. Mais celui qui descend, il descend où? C'est celui qui mène à la mort et à la malédiction, les amis. Celui qui descend. Et celui qui monte vers le ciel, celui-ci, c'est le chemin de la vie et de la bénédiction. Alors, il faut qu'on se positionne. Lequel des chemins on doit prendre? Parce que j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on doit, en suivre un des deux. On n'a pas le choix. On ne peut pas dire, moi, je vais attendre tranquillement, que la vie se déroule. Je ne prends pas position. Et puis, comme ça, je ne prendrai pas une mauvaise décision. Voilà. Ben non, c'est pas comme ça. Il faut prendre une décision. Alors, vous êtes obligatoirement en train de marcher sur l'un ou sur l'autre. Est-ce que vous savez sur quel chemin vous êtes en train de marcher? Si vous êtes sur celui qui est large et qui descend, si c'est facile, je crains que vous soyez sur une mauvaise piste. Si c'est trop facile, s'il n'y a pas de difficulté, à mon avis, c'est que... Voilà. Est-ce que vous êtes au contraire sur le chemin de la difficulté, de la lutte contre le péché tous les jours? Est-ce que vous êtes dans la lutte pour, avec le Seigneur? Si c'est celui-ci, vous avez choisi le bon, alors. Si vous êtes sur le mauvais chemin, mauvaise nouvelle, vous êtes sur le mauvais chemin, bonne nouvelle, vous pouvez faire demi-tour. Pas trop tard. Hein. Dieu dit, c'est le jour aujourd'hui pour le salut. Hein. Vous pouvez faire demi-tour. Est-ce que vous êtes tous sûrs d'être sur le bon chemin, les amis? Ok. Alors, on va justement tourner un moment dans la prière. On va prier pour demander au Seigneur de nous garder sur ce chemin. Ou alors peut-être de dire, Seigneur, je ne suis pas sur le bon chemin. C'est peut-être le moment pour moi de faire demi-tour. J'aimerais vous enlever le peut-être de votre conscience. J'aimerais vous dire, c'est le moment pour vous de faire demi-tour. Je vais rappeler un petit peu ce que j'ai dit. Donc, Dieu existe, mes amis. Dieu existe, si vous vous posiez la question. Dieu existe, la Bible dit dès les premiers versets. Dieu a créé le ciel et la terre. Ensuite, il est souverain. Celui qui est le créateur est également souverain sur sa création. Il en a gardé le contrôle. Il n'en a pas laissé la gestion totale aux hommes. Son plan s'accomplira. Et on a vu que son plan, son dessein pour l'homme, c'était un plan d'amour. Dieu est amour. Et il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Il a laissé aussi le choix à l'homme de choisir. Dieu veut que tout soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut que tout soit sauvé. Maintenant, il faut que chacun d'entre nous fasse le bon choix entre deux chemins. Celui qui va vers la vie et la bénédiction, celui qui ira vers la mort et la malédiction. Alors on va prier à présent. Je vais vous laisser l'opportunité, si vous avez fait fausse route, de reprogrammer votre GPS. Le ciel, ça peut sembler loin, mais c'est tellement près quand on appartient au Seigneur et on le vit jour après jour. Alors, ne tardez pas, on va prier. Seigneur, merci parce que ta parole, Seigneur, nous dit qui tu es, Seigneur. Tu es Dieu et tu existes. Mais tu es un Dieu bon, Seigneur, un Dieu d'amour. Tu nous as créés chacun d'entre nous, Seigneur. Nous l'avons dit, nous étions encore des masses informes, tu nous connaissais déjà. Tes yeux étaient portés sur nous. Et tu avais déjà écrit dans ce livre tous les détails de notre vie, Seigneur. Tu sais tout à l'avance. Seigneur, nous avons aussi la certitude, tu l'as dit dans Jérémie 29, que tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Simplement, Seigneur, si nous ne vivons pas, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de nous, Seigneur. Et parce que, Seigneur, nous avons rejeté ce plan. Nous t'avons rejeté. Nous avons dit que nous voulions suivre le péché, Seigneur, et nous voulons nous éloigner de toi. Et puis un jour, certains d'entre nous ont décidé, Seigneur, de changer de direction. En regardant à toi, Seigneur, nous nous sommes aperçus que qui tu étais, Seigneur, et qui était ton Fils, Jésus, envoyé pour que nous ayons la vie, Seigneur, la vie à travers sa mort. Certains l'ont accepté, Seigneur, et ont fait de lui son Sauveur, leur Sauveur. Et Seigneur, tu leur as donné alors la grâce de la vie éternelle. Ils sont à présent dans ta main, Seigneur, et rien ne peut les enlever de ce qui est dans ta main, Seigneur. Car tu es souverain, mais tu règnes aussi, et tu es tout-puissant. Nous voulons prier, Seigneur, pour ceux ici présents ou ceux qui ne seraient pas encore dans la bonne direction, Seigneur, qui ont fait fausse route. Seigneur, nous voudrions prier pour que ces personnes
Ouvre leur cœur pour toi aujourd'hui, Seigneur. Ouvre la porte pour te recevoir. C'est peut-être le cas de certains ce matin, Seigneur. Peut-être qu'ils n'étaient pas sûrs du chemin qu'ils avaient emprunté et qu'ils ont compris que ce n'était pas le bon, Seigneur. Il était trop large, trop spacieux, trop facile. Cette descente, Seigneur, qui mène tout droit vers la mort et qui nous entraîne aussi. Si quelqu'un avait la conviction ce matin de s'être trompé de chemin, j'aimerais lui demander, s'il le souhaite, de lever la main à présent, que l'on puisse prier pour lui et de l'aider dans ce parcours, de cette décision à prendre pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un pense avoir fait fausse route ce matin et aimerait changer à présent de direction? Si c'est votre cas, vous pouvez lever la main et nous allons prier pour vous. Gloire à toi, Seigneur, en tout cas, car tu connais les cœurs, Seigneur. Tu sais que la vie est difficile, Seigneur. Et nous comprenons aussi que si elle est difficile, c'est parce que nous faisons bonne route, Seigneur, aussi, certainement. Les difficultés resteront là pour les chrétiens aussi, mais nous savons que tu es le maître de toutes choses, Seigneur. Tu es notre Créateur, tu es celui qui règne dans nos vies, tu es celui qui dirige nos pas, et nous avons la foi que tu es celui qui nous gardera, parce que c'est écrit dans ta parole aussi. Seigneur, merci pour nous avoir ouvert les yeux ce matin, et prions encore pour, te remercier pour nous permettre de nous réunir librement, Seigneur, et de pouvoir apprendre ces choses, parce que ce n'est pas le lot de tous, Seigneur, et nous savons qu'il y a encore de nos frères qui se réunissent clandestinement, Seigneur. Sois avec eux aussi, et gloire à toi, au siècle des siècles.